Ah, Mario Langlois est là. Il va commencer la soirée avec vous dès 18h30. Salut, Mario.
Allô, Patrick.
OK, tu veux qu'on parle de l'impact des vaccins à venir? Puis moi, je trouve que c'est un excellent point de vue parce que des fois, je me demande, sachant que les vaccins s'en viennent, est-ce que les gens vont comme baisser la garde en se disant, bah, c'est pas grave, de toute façon, dans une couple de mois, on va se faire piquer?
Mais est-ce que tu t'imagines, je pensais à ça cet après-midi, en pensant à un des sujets qu'on allait aborder, la distribution du vaccin, puis on voit la quantité incroyable que le Canada s'est procuré pour être sûr d'avoir un levier, un rapport de force avec l'industrie pharmaceutique, qui a le gros bout du bâton. Mais tu t'imagines, Patrick, si en ce moment, quelques semaines de Noël, tu vois à quel point ça sème de l'anxiété, savoir le congé, pas tout le monde qui aura droit, si il n'y avait pas de candidats vaccin qui étaient aussi avancés que ceux dont on parle, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et les autres. Alors, je veux juste encore une fois souligner, puis même s'ils ne sont pas approuvés encore, à quel point, je ne sais pas dans quel climat social nous serions plongés actuellement sans cette lumière. Tu sais, on parle beaucoup de lumière au bout du tunnel depuis que Pfizer est sorti de l'ombre avec un pourcentage intéressant. J'ose pas imaginer, et ça demeure, si on va jusqu'à l'approbation, un miracle quasiment scientifique qu'on ait avancé si rapidement que ça. Alléluia, parce que je ne sais pas comment ça virait.
Le mot est pas trop fort. Je veux dire, miracle peut-être pas, là, mais allons-y avec exploit. Exploit jamais vu, parce que je pense que le développement le plus rapide d'un vaccin avant ça, là, j'oublie pour quelle maladie, je pense que c'était 7 ans ou quelque chose comme ça. Tu vas me dire que c'était une autre époque, qu'il n'y avait pas le même genre de collaboration. Peut-être, mais quand même, dans l'histoire de l'humanité, si en effet les vaccins là, passent le test indépendant d'efficacité, je veux dire, moins d'un an après le début de la pandémie, on n'est pas loin du miracle.
Oui, exactement. Alors, c'est plus ça que je voulais souligner, mais dans le pratico-pratique avec Benoît Morin ce soir, on va vraiment s'attaquer à la distribution. Puis, plus il y a de candidats vaccins, les pharmaciens puis les gens de l'industrie pharmaceutique aiment, tu sais, je sais pas lequel, si on pourrait dire, moi, je veux ce vaccin-là, mais le fait qu'il y en ait plusieurs va permettre une distribution plus efficace, même si tout n'arrivera pas en même temps. On peut même s'imaginer, par exemple, qu'avec le profil du vaccin d'AstraZeneca actuellement, que c'est peut-être un pharmacien qui va aboutir, c'est peut-être un vaccin qui va aboutir éventuellement dans les pharmacies, mais au départ, ça va prendre des super centres de distribution avec des congélateurs à moins 90 degrés pour le Pfizer. Oui. Mais ultimement, d'ici la fin de la prochaine année, on pourra peut-être avoir une distribution qui ressemble au vaccin de la grippe saisonnière.
Tu sais, Mario, tu parles de la chaîne de froid, là, parce qu'il y a un des vaccins là, qui, semble-t-il, devrait être gardé. Là, tu dis moins 90. Là,
80, je pense.
C'est ça, en tout cas, c'est très, très froid.
Oui.
Écoute, honnêtement, dans un grand pays comme le nôtre, dans un pays avancé, dans un pays riche, ça, là, pour moi, là, c'est à peu près le dernier de mes soucis. Sérieusement, je suis plus préoccupé par à quel moment il va arriver. Dans la file des pays qui vont le recevoir en premier, on est où? Je comprends qu'on ne le reçoive pas en premier parce qu'on n'a pas l'infrastructure. Mais pour ce qui est du froid, ça me gosse pas
bien. Mais tu t'imagines, quand je disais que l'industrie pharmaceutique a le gros bout du bâton, quand un pays se voit un peu contraint ou dans l'obligation d'acheter sans être sûr que tu pourras les conserver, puis si le virus mute, à un moment donné, t'en achètes pour rien. Donc, on s'assure de 194 millions de doses, Pat. On a une option sur 220 millions d'autres doses supplémentaires. Pour 414, que je sache, on est autour de 38 millions. Qui a le gros bout du bat en ce moment?
C'est eux autres.
Aïe, aïe.
C'est eux autres.
Aïe, puis sais-tu quoi? On pense que ça nous assure qu'on va l'avoir, puis que donc, comme le gouvernement nous dit qu'il y a 3 millions de vaccins qui auront été distribués et administrés d'ici mars. Mais il y a un prix qui vient avec ça. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça?
Ce qui est formidable, c'est que je pense qu'on va voir du progrès avant même que toute la population soit vaccinée.
Probablement.
Tu comprends? Quand tu vas avoir un noyau dur de Canadiens, de Québécois qui vont avoir été vaccinés, déjà là, le virus va avoir moins d'hôtes sur lesquels se développer. Donc ça va être bon. Puis on peut penser que les premiers à être vaccinés, Mario, vont être nos travailleurs de la santé qui sont les plus exposés. Après ça, probablement parallèlement, les personnes âgées, etc.
Exact.
Quand tu vas avoir commencé, déjà là, je pense qu'on va voir une sorte de retour à normal.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on va avoir un retour à la normale à l'avenir, Patrick, dans les centres-villes des grandes villes du Canada, au Québec. C'est sûr qu'on peut pas comparer, par exemple, les centres-villes des grandes villes du Québec, dont la ville de Québec, puis on pourrait s'y attarder dans une autre conversation, mais par rapport au centre-ville de Montréal, quand tu dis que 10% des travailleurs actuels seulement ne fréquentent le centre-ville, quel est l'avenir des centres-villes? Ce soir, j'amorce une série de réflexions, une série d'entrevues avec Jean-Marc Fournier, qui lui est devenu, dans le dernier mois, le président de l'Institut de développement urbain du Québec. La semaine prochaine, je vais parler avec d'autres mondes parce que, tu sais, je pense qu'on a le réflexe de toujours vouloir refaire exactement ce qu'on faisait avant.
C'est fort.
C'est fort. Puis en même temps, d'autre part, pour ce qu'on veut changer, parce qu'il y en a qui veulent pas perdre leur chemise là-dedans, ou même les grandes entreprises, est-ce qu'on va, on va parler de la possibilité de convertir des tours à bureaux en tours à condos?
Ben,
tu sais, quel genre, Mario, mais il faut, ça prend de l'ordre là-dedans, Patrick. Ça peut être le bordel.
Ça prend de l'ordre, mais la question va se poser, parce que là, les entreprises ont vu que ça se fait avoir une grande partie de ta force de travail qui est pas au bureau, puis continuer. Après ça, la pression qu'il va avoir, je pense, c'est... Tu sais, disons que tu as loué, je te dis un chiffre au hasard, tu as loué 10 000 pieds carrés sur un bail de 10 ans. Si, après la pandémie, tu as juste besoin de 5 000 pieds carrés, bonne chance dans tes négos avec ton locataire.
Tu peux être sûr.
Et ça risque d'être une pression pour ramener du monde au bureau aussi.
J'ai hâte de voir comment l'industrie va rebondir de ça, autant au centre-ville que dans des grands développements commerciaux comme le 10-30 sur la Rive-Sud. Il y a beaucoup de locaux vides. Je serais pas surpris qu'on en mette quelques-uns par terre, puis qu'on mise davantage sur du récréatif pour trouver d'autres raisons de faire déplacer les gens, Patrick.
C'est sûr que ça va faire changer. Ça va nous pousser à nous réinventer même après la pandémie.
As-tu sorti les bubules, là?
Non, les bubules s'en viennent après la pause. On va t'en laisser, un verre
beau,
pour,
c'est beau.
Pour ton show.
J'en prendrai un verre en avant. Merci, Patrick.
Excellent week-end, bonne Mario. Merci beaucoup. Mario Langlois qui va être là à 18h30 avec des sujets toujours aussi passionnants.